Paul, lui, est complètement inventif. Il renvoie l'esclave chez son ancien maître et il lui demande de l'accueillir comme un frère. Donc on voit qu'il ne change pas le droit ni les institutions, mais il propose, il pense l'homme différemment. Il propose aux chrétiens cette anthropologie nouvelle qui doit progressivement modifier les relations au sein de la communauté.
Et c'est le rapport au corps qui est profondément modifié. Dans la lettre aux Corinthiens, les théologiens aiment bien compter les mots de temps en temps, ça nous occupe. Et c'est là où il y a 30%, je crois, des références du mot corps et de sa famille, de tout le Nouveau Testament, dans les seuls textes. Et il y a vraiment, tout au long du texte, une réflexion sur le corps pour arriver jusqu'à dire le corps du Christ ressuscité qui est un corps spirituel. Allez savoir ce que ça veut dire. On arrive au bout de nos concepts. Et c'est à partir de ce corps de Jésus ressuscité qu'il peut repenser l'homme complètement dans toutes ses relations avec le monde et avec ses proches.
C'est-à-dire là, on voit aussi émerger la notion de personne. On sait très bien dans l'Antiquité, c'est banal de le dire, que l'individu n'existe pas. L'homme antique n'existe que comme membre de communauté, sa famille, sa cité, etc. Et Paul donc est capable justement par cette nouvelle appréhension du corps, de la relation à Dieu, de penser la personne.
Alors, il ne reste plus qu'un quart d'heure, donc on va accélérer un petit peu la vision des lettres, parce qu'après il faudrait parler de la postérité de Paul. Il y a une lettre importante qui est Philippiens, et puis il y a une lettre qu'on a déjà commencé à en parler, une sorte de traité.
Et la deuxième aux Corinthiens.
Allez, laissez-moi avancer.
Ah, c'est la plus belle.
C'est la
plus christologique, et c'est celle où il dit, par rapport au thème que nous abordions, voici une nouvelle création, voici une nouvelle fondation. Et l'Eucharistie, pour lui, est vraiment le rite par lequel nous posons les fondements d'une nouvelle existence de l'humanité, d'un nouveau rapport à l'humanité.
D'une nouvelle relation des hommes entre eux.
Pour participer à l'Eucharistie,
communautaire, oui.
Il suffit d'être baptisé. Pour participer à un rite cultuel quelconque dans l'Antiquité, pour une femme, par exemple, il faut être parrainé par son père, par son frère, par son mari. Là, il suffit d'être baptisé.
Pas tout à fait quand même. C'est justement le seul moment où les femmes pouvaient aller toutes seules et se trouver des amants dans les fêtes religieuses. C'était très connu, ça.
Ah bon?
Oui. Les Élysias, etc. Ah, c'est oui, là où les femmes vont toutes seules aux fêtes religieuses et Dieu sait ce qui s'y passe.
Bon, alors, du coup, tant pis, vous avez parlé de la deuxième épître aux Corinthiens, donc on ne parlera pas d'épître aux Romains qu'on invite les téléspectateurs à lire, évidemment. Et j'aimerais quand même qu'on dise quelques mots de la fin de la vie de Paul pour ensuite dire sa postérité. Donc il est dans ses communautés et il a comme projet d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller jusqu'à l'Espagne, comme on dit souvent.
Il le dit, il l'envisage.
Il l'envisage, on ne sait pas ce qu'il voulait faire.
Il l'envisage. Et alors, c'est peut-être un topos rhétorique.
Oui.
Enfin, ça montre au moins qu'à ce moment-là, ce qui n'était pas le cas au début, il a vraiment perçu la mondialisation, l'unité du monde, alors que Luc, encore l'auteur des Actes, s'arrête à Méditerranée orientale. Hein. L'horizon de Luc ne va pas au-delà de Rome. Paul, incontestablement, à la fin de sa vie, arrive à concevoir le monde comme dans son ensemble.
Et donc, en chemin, il doit passer par Jérusalem, parce qu'il faut expliquer qu'il avait fait une collecte pour les églises de Jérusalem qui étaient plus pauvres que les églises, que ses propres églises. Et là, ça se passe mal. Que se passe-t-il ?
Ben, il va dans le temple et il se fait arrêter dans le temple parce que, selon les Actes des Apôtres, par des chrétiens, enfin des juifs d'origine d'Éphèse, donc ils l'ont croisé à Éphèse. Le séjour à Éphèse est très agité. Et donc les agitations d'Éphèse se répercutent dans le temple. Après ça, c'est plus compliqué de savoir exactement ce qui s'est passé. Il est arrêté, ce qui est la meilleure mesure que le tribun ait pu prendre pour le protéger, dans l'immédiat. Voilà. Et sinon, il était lynché publiquement. Et puis ensuite, tout le cycle des procès, des rencontres, sachant que Luc compose un récit qu'il faut tenir son lecteur en haleine jusqu'au bout, et qu'il a lui aussi un certain nombre de critères rhétoriques à satisfaire. Donc c'est un peu difficile du point de vue historique de démêler ce qui est de la mise en avant du personnage de Paul et ce qui est de l'itinéraire précis, c'est-à-dire qu'on ne sait plus grand-chose à partir de ce moment-là.
La question juridique, c'est... Bon, il va à Rome. Alors, on présente toujours ça, l'appel à l'empereur, refuser la législation locale pour faire appel à l'empereur. C'est ce qui fait problème pour les historiens, car c'est pas un comportement habituellement attesté. Donc, c'était des éléments qui obligent presque à déduire que Paul est vraiment la famille de Paul, parce que le neveu intervient aussi à Jérusalem. C'est toute la famille, c'est pas Paul tout seul. Donc, qui oblige à déduire que la famille est sûrement très introduite à un haut degré de romanité. Parce que quoi qu'on en ait dit, l'appel à César, c'est pas du tout une procédure habituelle à l'époque.
Donc, il en appelle à César, donc à l'empereur.
Donc, il est transféré à Rome.
Et alors là,
on ne sait plus rien. Une fois qu'il arrive à Rome, on ne sait plus rien.
Voilà. La tradition nous dit qu'il meurt décapité
en
64, 68. Il y a plusieurs dates.